Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Raison gardée proposée par les Libres Penseurs de Meurthe-et-Moselle. Alors, faut-il rappeler que la Fédération des Libres Penseurs de Meurthe-et-Moselle est une association affiliée à la Fédération Nationale de la Libre Pensée et qui débat et combat pour plusieurs causes liées en particulier à la laïcité, mais aussi à l'école ou aux questions militaristes. Et aujourd'hui, je vous propose une émission qui interroge un événement assez récent qui m'a suscité chez moi plein de questions et je propose d'y réfléchir ensemble. C'est la venue récente du pape à Marseille le 23 septembre 2023. Alors cet accueil par le président Macron a suscité beaucoup de réactions. La présence du président a suscité des débats parce que il a annoncé qu'il allait accueillir le pape en tant que chef d'un État. De toute façon, a-t-il dit qu'il allait se rendre à une messe au stade de Vélodrome. Et le timing ne paraissait peut-être pas très bon en matière de laïcité avec la polémique de la rentrée sur l'abaya, avec les tergiversations sur la proposition de loi sur la fin de vie, avec aussi la difficulté à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Bref, les liens entre le politique et le spirituel, dirons-nous, la façon parfois de traiter la laïcité selon des configurations différentes en fonction de la religion de laquelle on parle, suscite bien des interrogations. Alors, sur ce sujet précis du pape et du président, plusieurs questions sont venues à l'esprit que je vous propose de traiter aujourd'hui. La première, elle porte sur les liens du président de la France avec le Vatican. Quels liens avons-nous en particulier ? Les liens historiques, nous les connaissons, mais où en sommes-nous exactement ? La deuxième question qui m'a interrogée, c'est la présence des élus à des rites religieux. Que dit la loi ? Quels sont les débats sur ce sujet ? Et puis, je me suis aussi posé une question, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, mais des gens qui disent « mais le Vatican n'est pas un État ». Alors, je me suis posé la question et je suis allée chercher quelques sources et ressources et je propose de les partager avec vous aujourd'hui. Alors, commençons par la question des liens du président de la France avec le Vatican. Il fut un temps, on le sait, où l'Église catholique a imposé à l'Europe, aux rois, aux princes, aux peuples, son pouvoir, parfois de façon assez violente avec l'Inquisition, mais de façon plus discrète, mais très présente, notamment au temps de la monarchie, qui était de droit divin, nous le savons bien. La France a rompu avec ses dogmes, d'abord avec la Révolution de 1789 et puis avec la République en 1871. Et de manière non pas définitive, on le voit bien, mais de manière très forte, à travers la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905. Alors on entend encore souvent l'expression « la France, fille aînée de l'Église », c'est une part de notre histoire, mais depuis 1905, cette loi de séparation des Églises et de l'État indique très clairement que la France ne reconnaît et ne subventionne aucun culte. Pour autant, le président de la République reçoit quand même une série de titres. Alors ce sont des titres qui, d'après l'Élysée lui-même, font partie, je reprends l'expression de l'Élysée, d'un package de la fonction de président qu'on ne peut refuser. Alors qu'y a-t-il dans ce package qui est lié à l'Église catholique ? Alors, le président de l'État français, il est coprince d'Andorre avec l'évêque d'Urgel en Espagne. Alors, c'est un rôle qui est très protocolaire, mais bon, quand même. Il est chanoine honoraire de cathédrale, le Saint-Jean de Maurienne, Saint-Julien du Mans, Saint-Maurice d'Angers, Saint-Jean de Lyon, Saint-Étienne de Cahors, Saint-Étienne de Chalon et de certaines églises. Il est aussi proto-chanoine de la basilique Notre-Dame de Cléry et de la cathédrale d'Embrun. Et voilà, puis il a aussi deux autres titres qui ne sont pas religieux, c'est le protecteur du domaine de Chambord et de l'Académie française. Mais ce sont aussi des titres qui remontent à la royauté. Alors effectivement, on peut considérer que ces titres sont purement symboliques, et celui qui m'intéresse en particulier parce qu'il contribue à cette idée qu'il reste un lien du président français avec le Vatican, c'est le titre de chanoine du Latran. Alors d'où vient cette histoire? En fait, il faut remonter au roi Henri IV, donc on est à la toute fin du XVIe siècle, qui après avoir abjuré sa religion protestante et avoir reçu l'absolution du pape, a fait don au Latran d'une abbaye bénédictine dans le Lot-et-Garonne, et en échange, il a reçu ce titre qui ensuite est décerné systématiquement au roi de France. Alors il y a une, et puis au président. Alors il y a une messe qui est célébrée chaque année le 13 décembre à la basilique Saint-Jean de Latran à Rome en l'honneur de la France. Et donc tous les rois puis les chefs d'État sont chanoines honoraires. Donc c'est une vieille tradition en fait qui n'a jamais été abolie. Sauf que il faut attendre 1957 pour que un président de la France se rende à Rome pour une cérémonie officielle de prise de possession de ce titre. Ce président, c'est René Coty. Alors, l'entourage du président Macron rappelle que c'est un titre honorifique et historique sans aucune dimension spirituelle, mais est-on vraiment tenu d'aller prendre possession de ce titre de manière tout à fait officielle? C'est ce que le président Macron avait fait. C'est ce qu'ont fait aussi Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, qui, à l'occasion de cette remise de son titre, avait prononcé un discours qui avait fait polémique en son temps en évoquant les racines de la France essentiellement chrétienne. Je cite. En revanche, Georges Pompidou, François Mitterrand et François Hollande, qui n'ont pas souhaité marquer cet héritage, ont préféré ne pas se rendre à Latran. Donc le choix qu'avait fait le président Macron s'inscrit dans une certaine continuité de président, et il s'inscrit aussi dans la continuité d'une pensée qui s'est exprimée lors d'un discours à une conférence des évêques de France, un discours lors duquel Emmanuel Macron avait déclaré souhaiter réparer, entre guillemets, le lien abîmé entre l'Église et l'État. Dans un discours au Latran, justement, en 2018, le président Macron avait fait référence au roi et à ces moments où la liberté de conscience, les sciences, les connaissances avaient été entravées par l'Église. Toutefois, il avait aussi glorifié le passé de l'Église chrétienne. Et il fonde une partie de sa pensée sociale, en fait, sur des penseurs très clairement catholiques. Ce lien entre le président Macron et l'Église catholique est bien perçu par notamment la Conférence des évêques de France, qui, par la voix de son secrétaire général, Olivier Ribadeau-Dumas, avait déclaré, donc là je cite cette déclaration de ce secrétaire général de la Conférence des évêques de France, « Nous avons entendu la main tendue du président de la République aux catholiques. Dans son discours, il y avait la reconnaissance de la place au catholicisme dans notre pays comme une évidence historique et l'affirmation que les catholiques ont un rôle à jouer dans la cohésion sociale. » Donc évidemment que tout citoyen a sa place dans la société, mais cette manière de vouloir renouer un lien qui aurait été rompu avec une église en particulier pose quelques problèmes quand même au regard de la loi de 1905. Le pape François, le pape actuel, a lui exprimé quelques critiques vis-à-vis de la France, notamment de son héritage des Lumières. De son côté, il avait déclaré « En France, la laïcité a une coloration héritée des Lumières beaucoup trop forte, qui construit un imaginaire collectif dans lequel les religions sont vues comme une sous-culture. » Alors, c'est son point de vue. En tout cas, c'est une critique quand même portée de manière assez claire contre notre héritage, notamment la loi de 1905. Donc nous voyons bien, pour conclure sur ce premier point, qu'il y a des liens historiques entre l'État français et l'Église, et que malgré la loi de séparation des Églises et de l'État, les liens avec l'Église catholique restent un peu particuliers et un petit peu discutables. Alors la deuxième question que je me suis posée, c'est la question de la présence des élus à des rites religieux. C'est une question compliquée qui n'est pas tout à fait traitée, totalement réglée en tout cas avec la loi de 1905. Et ce débat revient de manière assez régulière. J'en veux pour preuve une question écrite, par exemple, qui a été traitée au Sénat en 2017 et un débat qui a été porté aussi à l'Assemblée nationale en 2021. Donc on voit quand même que de façon régulière, la question se pose. Vous-même, vous avez peut-être parfois été étonné de voir, lors de fêtes religieuses, des élus se présenter en tant qu'élus avec une écharpe, une cocarde et assister à la cérémonie. Alors, la question qui avait été portée au Sénat par le sénateur de la Nièvre, Patrice Joly, était formulée en ces termes. Donc, elle interrogeait les principes de la laïcité consacrés par la loi de 1905 et son application aux élus en exercice. Le sénateur rappelait dans sa question que la loi du 9 décembre 1905 précise que la République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Or, disait-il, on observe depuis plusieurs années des risques de dévoiement de la laïcité, un principe pourtant fondateur et majeur de nos institutions républicaines. Ensuite, le sénateur donnait quelques exemples des commémorations du 11 novembre ou l'anniversaire de la mort de Georges Clemenceau, commémorations lors desquelles des maires organisaient des messes ou participaient à l'organisation de messes, qui étaient promus d'ailleurs dans des publications municipales, des bulletins municipaux, des affiches officielles, bref, l'information, outre la présence des élus, l'information était aussi diffusée par les canaux de communication des municipalités. Donc, c'est une invitation de la mairie, hein, de la municipalité, à participer à ces événements religieux. De même, disait-il, certains élus assistent avec donc leurs insignes républicains, écharpes, etc., à des cérémonies. Et ils donnent comme exemple la cérémonie de célébration de la Sainte-Barbe pour les pompiers. Il ajoute, les cérémonies officielles communales s'adressent par nature à l'ensemble des citoyens, sans distinction particulière ou communautaire. Cependant, une messe est une cérémonie religieuse qui relève du domaine privé et doit le rester. Et donc sa question se conclut ainsi, parce qu'il est essentiel de garantir l'indépendance de l'État et de ses services publics à l'égard des institutions et des pouvoirs religieux, quels qu'ils soient. Il demandait aux législateurs de rappeler quelles sont les règles et les usages en la matière. Alors, c'est vrai qu'il suffit de consulter la presse locale pour voir très régulièrement ces présences d'élus et la question à des cérémonies bien différentes d'ailleurs. Et on va voir justement que dans la réponse du ministère de l'Intérieur, il est question de nuances à propos de la nature même de ces manifestations. Voici ce que répondait le ministère de l'Intérieur dans cette réponse apportée en séance publique. Vous pouvez retrouver cette réponse sur le site du Sénat, date du 21 mars 2018. S'agissant d'une information relative à un événement ayant lieu sur le territoire communal, le maire peut communiquer sur l'organisation d'une cérémonie religieuse sans porter atteinte au principe de laïcité. Donc ça, c'est pour le volet informatif. Concernant la participation à une cérémonie religieuse, là, le ministère de l'Intérieur va faire un distinguo. Il convient de distinguer les cérémonies auxquelles il participe à titre privé de celles à l'occasion desquelles il représente la commune. Le maire qui assiste à titre privé à une cérémonie religieuse ne peut pas porter son écharpe, qui est le symbole de sa qualité de maire, là, en l'occurrence. En revanche, lorsqu'il assiste à une cérémonie religieuse traditionnelle organisée par une institution de la République telle que la cérémonie de la Sainte-Barbe pour les sapeurs-pompiers, c'était l'exemple pris par le sénateur, il y assiste en tant que représentant de la commune. Il est donc à ce titre autorisé à porter son écharpe. De même, à l'occasion des obsèques d'un élu ou ancien élu qui se déroulerait sur le territoire de sa commune, le maire peut également porter son écharpe car il y assiste en tant qu'autorité communale sans que le principe de laïcité ne soit remis en cause. Donc, cette présence, d'après le cadre de la loi, semble possible. Ce qu'il est intéressant de souligner dans cette réponse, c'est qu'on parle bien de la présence de l'élu et pas de sa participation active à certains rites, c'est-à-dire à la pratique du rite religieux lui-même. Et lors de la venue du pape, justement, l'Élysée a abondamment communiqué sur le fait que le président de la République ne communiait pas à l'occasion de cette messe. C'est une façon de vouloir distinguer la présence de l'élu et sa pratique personnelle. Les débats n'en restent pas là, parce que la réponse ne paraît pas toujours très satisfaisante. Au nom d'une séparation très claire et pour éviter de sembler favoriser une religion plutôt qu'une autre, ne faut-il pas reposer quelques règles fondamentales concernant la présence des élus? Surtout qu'on a pu constater, et vous savez peut-être que la libre pensée en parle souvent, que des maires veulent réintroduire des symboles religieux chrétiens, catholiques, au sein même de leur mairie, profitant justement parfois d'une faille de la loi et jouant sur son caractère culturel. Là-dessus, il a été démontré que certains maires, qui ont parfois une orientation politique très très clairement l'extrémité de la droite, veulent envoyer un signal à certains de nos concitoyens en voulant rappeler que la France serait une France plutôt chrétienne. Donc à ce titre-là, ils ont été rappelés à l'ordre, on va dire, parce qu'ils n'ont pas le droit de vouloir ainsi enfreindre le principe même de la loi de 1905. En 2021, concernant la participation des élus à des célébrations religieuses, un débat avait été porté à nouveau à l'Assemblée nationale. Un article du journal La Croix en rapporte les éléments principaux. C'est un article du 4 février 2021. Ce débat est venu à la suite de différentes cérémonies qui avaient suscité quelques réflexions, des cérémonies qu'on peut qualifier de traditionnelles, que certains qualifient de traditionnelles, par exemple des baptêmes de navires. C'est une tradition qui est constatée dans des endroits où on trouve des chantiers navals. Et quand le navire est achevé, eh bien, il n'est pas rare qu'il y ait une procession et une cérémonie religieuse à laquelle participent des élus locaux. Alors, un député, Alexis Corbière, avait présenté un amendement disposant que toute personne dépositaire de l'autorité publique ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, assister à une cérémonie religieuse. Alors, les exemples présentés complètent ceux qui avaient été évoqués par le sénateur dans sa question quelques années avant. Il évoquait le vœu des échevins à Lyon, qui commémore la protection de la Vierge contre la peste en 1643. Il évoquait aussi d'autres processions commémoratives, par exemple dans la ville de Nice, d'un épisode de choléra. Et le député considérait donc dans son amendement qu'il fallait, hors exception très particulière, comme des cérémonies qui suivent des attentats ou des obsèques de personnalité, il fallait que les élus donnent l'exemple en matière de neutralité en ne se rendant pas à ces cérémonies. C'est un débat qui a duré un certain temps, nous dit le journaliste, 1h30, avec, dit-il, des débats passionnés. Et en réponse à cet amendement d'Alexis Corbière, le député Sébastien Jumel, député de Seine-Maritime, a réaffirmé que lui, dans sa ville de Dieppe, justement, quand un bateau sort des chantiers, il est baptisé par les curés et que lui se fait un devoir d'y aller, pour quand bien même il serait, lui, à titre personnel, athée convaincu. Et il évoque une laïcité affirmée mais décomplexée dans son rapport au religieux. C'est la formule qu'il avait employée. Un autre député, François Péponi, député du Val d'Oise, racontait que lui, le monument aux morts de 14-18 se trouvant à l'intérieur de l'église, eh bien, il était présent dans l'église forcément, où étaient levés les drapeaux, et qu'il mettait alors son écharpe parce qu'il estimait que la neutralité n'était pas à ce moment souhaitable. C'est la rapporteure d'une réflexion sur le sujet, Laurence Wisniewski, qui rappelait à ce moment-là une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui avait fixé des règles qui étaient celles-ci. À une fête patronale, l'élu, en tant que représentant de la commune, peut porter une écharpe tricolore, mais doit s'abstenir de pratiquer. C'est justement ce que l'Élysée avait rappelé concernant la présence du président à la messe le 23 septembre. Ce qui, dit-elle, est un cadre juridique qui permet de concilier humanité, soin qu'on porte à son territoire et respect de la laïcité. Pour autant, ce qui posait manifestement un problème, c'est la pratique plus ostentatoire de la religion par des élus. C'est ce qui était pointé lors des débats. Et ce qui revient dans ce débat, c'est toujours cette limite, parfois très difficile à fixer, entre ce qui est culturel et ce qui est cultuel, ce qui relève du religieux. Par exemple, justement, ces messes de la Sainte-Barbe pour les pompiers, messes de la Sainte-Geneviève pour la fête des gendarmes, eh bien, ce sont des fêtes historiquement religieuses. Elles sont désormais considérées aussi comme des cérémonies, enfin des célébrations ancrées dans une culture, et c'est sur ces deux termes, le cultuel et le culturel, que les débats portent. Cela dit, à droite comme à gauche, cette réflexion sur le positionnement des élus et sur leur neutralité reste problématique, et le fait que le débat revienne sur cette question laisse penser qu'il faudrait peut-être légiférer de manière plus claire pour bien distinguer le pouvoir temporel du pouvoir spirituel. Et si on parle de pouvoir temporel et de pouvoir spirituel, eh bien je ne peux pas m'empêcher de penser à cette chanson de Jean Ferrat, Le Sabre et le Goupillon.
Comme cul et chemise, comme larrons en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations. Mais il n'en reste qu'une au travers de l'histoire qui a su nous donner toute satisfaction. Le sabre et le goupillon, l'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions. Et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences, et maint beau capitaine, reposait le guerrier de la même façon dans le salon chinois. Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires. On leur offrait des guerres et des expéditions. Que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions du sabre et du goupillon. Quand il s'en revenait, et d'Asie et d'Afrique, il faisait régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres, sans le dire, pensaient qu'elle a du bon, le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition des craquants sans brimeuse, des forts en téléum, qui nous donneront encore bien des satisfactions, le sabre et le goupillon.
Vous êtes toujours sur RCN et vous écoutez Raison gardée, l'émission des libres penseurs de Meurthe-et-Moselle. Et aujourd'hui, donc, on s'interrogeait sur les relations entre le président de la France et le pape, et la question aussi de la présence des élus à des cérémonies religieuses. La dernière question que je me suis posée à l'occasion de la venue du pape, en France, accueilli par notre président, eh bien c'est la question suivante. Est-ce que le Vatican, c'est vraiment un État ? Alors peut-être que parfois vous avez entendu des gens dire « mais non, c'est pas un État ». Alors je suis allée regarder, tout bêtement, comme tout le monde, j'ai pris mes petits doigts, j'ai tapé « Vatican ». Je suis tombée notamment sur le site de France Diplomatie, qui donne des données générales, qui fournit des indications générales sur les différents États. Et donc on trouve plein d'informations. La superficie, 0,44 km², le plus petit État souverain du monde, une capitale, la cité du Vatican, des langues officielles, l'italien, le latin, langue officielle de l'Église catholique et langue juridique du Vatican, le français pour la langue diplomatique, et l'allemand comme langue de l'armée du Vatican et de la garde suisse. Une monnaie, l'euro. Si vous avez eu l'occasion de voyager en Italie et d'aller au Vatican, vous avez pu voir que vous pouviez utiliser votre monnaie. Et puis, une date commémorative qui vaut fête nationale, c'est le 13 mars, jour anniversaire de l'élection du pape François. On a même des données économiques, son PIB, on a même des indications sur la présence de ses ambassadeurs un peu partout dans le monde. Donc il est clair que le pape est présenté comme un chef religieux et un chef d'État. Un pays qui est considéré comme un État observateur à l'ONU. Et comme tous les États, le Vatican dispose de son drapeau, donc de sa défense, traditionnellement par la garde suisse et ses uniformes bien identifiables. Le Vatican compte 800 habitants et seulement une grosse moitié a une nationalité vraiment vaticane. Alors pourquoi peut-on entendre parfois une contestation sur ce titre d'État ? Eh bien, à bien y regarder, si vous avez été attentif, vous avez peut-être entendu parfois l'expression État du Vatican ou bien le Saint-Siège. Et ces deux formules sont assez révélatrices en fait de cette ambiguïté. Il y a le pouvoir spirituel qui est le Saint-Siège, et puis il y a la zone géographique qui est la cité du Vatican qui aurait le statut d'État. Alors pour trouver des sources non partisanes sur ce sujet, je suis allée explorer quelques articles d'historiens qui racontent comment s'est constituée cette cité du Vatican et cet État du Vatican. Alors là encore, il faut remonter bien sûr dans le temps. Je vais vous en faire une histoire vraiment hyper brève, vous allez voir. Au tout début du christianisme, l'évêque de Rome n'est qu'un patriarche parmi d'autres. Il y en a un autre, donc un responsable spirituel. Il y en a un autre à Jérusalem, à Antioche, à Alexandrie et à Constantinople. Et c'est progressivement que Rome devient véritablement le lieu où se concentre le pouvoir spirituel à travers une figure qui est le pape. Vous le savez peut-être, à un moment donné, il y a eu deux papes, trois papes, et puis à nouveau un pape. Et les choses se sont ensuite fixées. Les relations de ce pouvoir spirituel avec le pouvoir temporel et notamment des rois de France expliquent l'origine des États pontificaux, c'est-à-dire des États qui appartenaient au pouvoir romain, au pouvoir du pape. Alors il y aura un document qui prouve que ça viendrait de Constantin, mais les historiens sont formels là-dessus, c'est un document apocryphe. Il faut attendre, alors je ne sais plus exactement la date, je crois que c'est le XVIe siècle, pour qu'il y ait des enceintes et un rempart pour délimiter véritablement ce qui a été appelé la cité léonine, qui en fait fixe déjà un petit peu l'espace géographique de la cité du Vatican, et ce n'est pas encore du tout un État. Vous le savez, quand l'unité italienne se construit, il faut régler justement le sort de ce pouvoir du pape. Faut-il lui donner une assise territoriale à Rome ? C'est ce qui est négocié de manière régulière à partir de la construction de l'unité italienne. Et c'est Mussolini, c'est le régime mussolinien, qui établit des accords avec le pouvoir spirituel incarné par le pape, pour lui donner une zone géographique bien délimitée pour faire cession en fait au Saint-Siège de cette zone, hein. Non pas seulement lui affecter la disposition de certains espaces, mais vraiment lui en faire la cession. Et donc, s'il y a une entité juridique qui est ainsi créée, certains historiens et certains juristes considèrent en fait que ce n'est pas véritablement un État, puisque notamment aucun État n'est vraiment propriétaire de son territoire. Donc voilà qui est un petit peu particulier pour la question du Vatican. Vous pouvez notamment trouver l'article d'un certain Jean-Luc Poutier en ligne dans une revue qui s'appelle la revue Pouvoir. Voilà pour quelques réponses à mes questions à l'occasion de la venue du pape en France. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission de Raison Gardée et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.